Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
La gloire au Dieu. Nous voulons la voir. Quoi qu'il puisse y avoir dans ce monde. Guerre, déchirement, violence, péché, infidélité. Seigneur, ta gloire, tu as un peuple sur cette terre. Tu as un peuple qui craint ton nom. Tu as un peuple qui a cru en toi. Tu as un peuple qui est lavé par le sang de Golgotha, par le sacrifice qui a été offert en rémission du péché, par la croix. Tu as un peuple qui espère en toi et qui attend ton retour. Ta gloire, nous la voyons dans la nature. Nous la voyons dans le ciel, dans les éclairs, dans l'espace qui nous entoure. Ta gloire, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Nous voulons voir ta gloire ici ce matin. Nous voulons voir ta gloire dans ce lieu, Seigneur. Parle-nous encore, Seigneur, dans ces temps de la fin, sanctifie ton peuple, afin qu'il soit prêt à te rencontrer. Merci, Seigneur, tu es saint, saint. Soyez saint, car je suis saint. Nous lirons dans le livre de Job. Le livre de Job au chapitre 31, à partir du verset 9. Tout en gardant comme base ce passage d'Exode 20, 14, tu ne commettras pas d'adultère. Nous en sommes au troisième message sur ce seul commandement. C'est un commandement qui a une grande importance. Quel est l'état de notre cœur et de notre fidélité vis-à-vis de Dieu? Fidélité vis-à-vis de l'engagement que nous prenons avec notre partenaire dans la vie, celle que nous avons choisie, celui que nous avons choisi, et avec Dieu lui-même. Quel est notre engagement? Quelle est notre fidélité? Sommes-nous fidèles? Il est écrit, Job 31, 9. Si mon cœur a été séduit à cause d'une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, autrement dit qu'elle soit esclave, et que d'autres abusent d'elle, car c'est une infamie, c'est-à-dire une flétrissure par la loi, quelque chose d'abject, quelque chose d'avilissant, quelque chose de répugnant. C'est une action vile, c'est une action honteuse. Voilà tout ce que veut dire infamie. C'est une infamie, une faute punie par les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à l'abîme de perdition. Et qui pourrait détruire radicalement tout mon revenu? Ah! Combien nous voyons de ces hommes qui s'engagent dans une vie de débauche et d'adultère, quoiqu'ils aient leur propre compagne, et qui en peu de temps sont en ruine et tout le bien qu'ils avaient amassé est parti en poussière. Ceci date du temps de Job, il y a très longtemps. Sagesse de la parole de Dieu. Lisons encore. Dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie au chapitre 5, au verset 7. Tes fils m'ont abandonné et ils font des serments par ce qui n'est pas Dieu. Je les avais rassasiés et ils commettent l'adultère. Ils s'attroupent dans la maison de la prostituée. Ce sont des chevaux sauvages bien nourris. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. N'interviendrai-je pas contre ces choses-là, parole de l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Infamie, violation, abaissement, ruine, l'adultère équivaut à l'idolâtrie. Et dans la parole de Dieu, cet exemple est utilisé dans tout l'Ancien Testament. C'est-à-dire l'abandon, l'idolâtrie, c'est l'abandon du véritable Dieu pour servir de faux Dieu. C'est l'abandon de l'alliance qu'on avait contractée. Soit avec son compagnon ou sa compagne, au niveau humain, soit avec Dieu et l'homme au niveau spirituel. C'est servir des faux dieux. C'est violer l'alliance contractée entre Israël et le Dieu d'Israël, le Dieu de l'alliance. C'est une rébellion ouverte. Lorsqu'on devient idolâtre, on devient rebelle et on s'élève contre Dieu en brisant l'alliance contractée avec lui. Lorsqu'on commet adultère, on devient rebelle et on est en train de violer et de rompre l'alliance qu'on a contractée avec son compagnon ou sa compagne devant Dieu. Dans Jérémie au chapitre 3 et au verset 9, il est dit, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis adultère avec la pierre et le bois. Dans tout l'Ancien Testament, voilà ce que représente le péché d'Israël lorsqu'il s'est retourné contre Dieu en servant des faux dieux. Dieu les appelle des adultères, des infidèles, des prostituées. Ils ont commis l'adultère avec la pierre et le bois, c'est-à-dire avec les idoles de pierre et les idoles de bois. L'un et l'autre, adultère et idolâtre, sont des actes d'idolâtrie, sont des actes d'infidélité et de trahison, et donc répréhensibles devant Dieu, devant le Dieu de l'Alliance, qui est complètement et entièrement fidèle. En lui, il n'y a aucune violation, il est fidèle. L'adultère est l'un des deux partenaires dans le mariage et de l'infidélité envers l'un l'autre et envers Dieu. Ne pensez pas qu'en commettant adultère d'une façon ou d'une autre, ceci n'influence pas vos relations avec Dieu. Car vous vous êtes engagé, et cet engagement, il est selon la volonté de Dieu. Car c'est une institution divine. Dieu a institué le mariage. Et quand vous brisez cet engagement, eh bien vous le brisez non pas seulement vis-à-vis de votre compagne ou compagnon, mais vis-à-vis de Dieu. Et c'est de l'infidélité envers le partenaire, mais aussi envers Dieu lui-même. C'est pourquoi le thème de cette loi se trouve dans toute la Bible et particulièrement dans l'Ancien Testament. Dans les descriptions des relations d'Israël avec le Dieu de l'Alliance, le Dieu fidèle, par laquelle ils sont liés à lui, liés à Dieu par l'Alliance. Frères et sœurs, ce péché a des conséquences bien plus profondes qu'on ne le pense. Nous sommes liés par cet engagement. Combien de fois Dieu décrit Israël comme étant une épouse infidèle, une épouse prostituée, une épouse qui a brisé l'alliance, qui a brisé l'engagement qu'elle avait pris avec son époux. Pourquoi ? Parce qu'elle a servi des dieux étrangers. Dans le Nouveau Testament, il en est de même. Nous voyons ce même exemple. Par exemple, dans Jacques 4, verset 4, où il s'écrit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Adultère que vous êtes, ce n'est pas seulement une image qui est prise dans l'Ancien Testament et que Dieu répète et répète à nouveau encore à travers la bouche de ses prophètes pour décrire le péché de sa nation chaque fois qu'il s'est tourné vers des faux dieux. Mais encore, ce même exemple est rapporté dans le Nouveau Testament. Si vous êtes amis du monde, vous devenez donc des idolâtres. Vous aimez le monde plus que Dieu. Vous aimez l'argent plus que Dieu. Vous aimez le pouvoir plus que Dieu. Vous aimez les belles choses du monde plus que Dieu. Vous êtes capable de faire n'importe quoi pour avoir des possessions. Capable d'aller même vers les féticheurs. Vous êtes devenus des idolâtres. Et parce qu'idolâtres, vous êtes devenus des adultères devant Dieu. Et vous vous prostituez avec le faux Dieu qui s'appelle le monde. Avec Dieu, nous sommes dans une relation semblable. Semblable à celle qu'Israël avait avec son Dieu. Une relation semblable à celle de deux personnes qui s'aiment et qui se préparent au grand jour de la célébration du mariage. Lui nous prépare une place. Lorsqu'il a quitté ses disciples, il leur a dit « Il est bon que je m'en aille ». Afin de vous préparer une place. Nous sommes fiancés à lui. Le jour vient, le jour des noces de l'agneau et de l'union de son église, son épouse, avec l'époux. Il est allé nous préparer une place. Nous, de notre côté, nous nous préparons pour lui être agréable. Nous nous préparons pour être digne de notre divin époux, digne de lui, et pour nous présenter pur et sans tache. Il nous prépare une place. Nous nous préparons à le rencontrer. Que celui qui se sanctifie encore. Notre société est de plus en plus une société permissive, où tout est permis. Une société dont la morale est relâchée. Le sexe est considéré comme une activité plaisante et agréable qui peut être séparée du contexte du mariage. On considère qu'il est mal de critiquer les autres en la matière et que chacun a le droit de faire ce que bon lui semble de sa vie. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Si cela est agréable, pourquoi ne pas le faire? Si c'est dans le domaine du possible. Ça, c'est la philosophie du monde. Mais le résultat, nous le connaissons de cette philosophie. Souffrance de toutes sortes. Maladie de toutes sortes. Sida. Enfants illégitimes qui n'ont pas de parents, pas de famille. Avortement, enfants non désirés, rejetés, malheureux, les conséquences de cette philosophie sont catastrophiques. Lorsque nous disons que tout le monde peut faire de sa vie ce que bon lui semble, sous-entendu n'importe quoi. S'il en a envie qu'il le fasse, ceci veut dire que nous reconnaissons que la société doit vivre sans loi, sans principe, sans morale. Autrement dit, nous officialisons l'anarchie morale qui engendre l'anarchie sur tous les plans, l'anarchie dans les sociétés, l'anarchie dans la politique, l'anarchie dans tout ce qu'on peut voir. Lorsqu'il y a une l'anarchie morale et qu'il n'y a plus de principe et que tout le monde peut faire ce qu'il veut s'il a envie de le faire et si ça lui fait plaisir, pourquoi pas transposer cela dans tous les domaines de la société? Et c'est la raison pour laquelle la société de notre monde d'aujourd'hui est en train de s'effriter complètement. Complètement. Les haines sont exacerbées. Personne ne crie, elle ne dit, elle ne se prononce pour faire remarquer que l'amour est bien plus bénéfique que la haine, que la réconciliation est bien plus bénéfique que la haine. Tout le monde cherche à se venger. Personne ne reconnaît ses erreurs. Tout le monde dit qu'il a raison parce qu'il a envie d'avoir raison, c'est tout. Et puisqu'on fait tout selon ses envies et ce qui fait plaisir à la chair, on arrive à des conflits qui n'en finissent pas. Pauvre monde. Le résultat de cette philosophie, ce sont tous ces enfants que nous voyons dans les rues, sans foyer, victimes, tous ces enfants que nous avons mis au monde, hors du mariage et que nous avons laissés quelque part, ils sont des victimes et c'est eux qui se retourneront contre vous plus tard. C'est eux qui, bourrés de haine ou de complexes, prendront les armes pour se venger. C'est eux qui détruiront la société que nous essayons de mettre sur pied. C'est eux qui vont avoir la haine et les complexes. Ils n'ont rien à perdre. Pourquoi ne pas tout essayer et tout faire? Plus de loi dès l'instant où on abandonne Dieu. Plus de loi dès l'instant où on veut faire tout ce qu'on veut. Mais ce que tu veux, ce n'est pas forcément ce que l'autre veut. Et là, il y a conflit. Il n'y a plus de berges à ce fleuve. Il déborde de toutes parts et il emporte tout sur son passage. La discipline, on n'en veut plus. Ce 7e commandement est valable pour nous car il vise à préserver l'institution du mariage et à préserver la famille. Tu ne commettras pas d'adultère. Il n'y a pas de tolérance à avoir dans ce domaine, car l'adultère est une menace pour la santé, est une menace pour la stabilité de toute la famille, est une menace pour l'harmonie de la société. La famille est le fondement même de toute civilisation et de toute société équilibrée. Et dès l'instant où la famille est mise en jeu, où le père n'est plus là, où la mère n'est plus là, partant et quittant la maison pour des raisons non valables, où l'infidélité n'est plus là, où l'exemple n'est plus donné aux enfants, nous arrivons à l'effritement de la société. Dans Proverbes, chapitre 6, verset 32, il est dit, « Celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera point. » Aïe, aïe, aïe. « Et son opprobre, sa honte, ne s'effacera point. » Ne pensez-vous pas, frères et sœurs, que nous avons besoin du pardon et du sang de Golgotha pour nous laver et nous purifier? Car si nous ne nous humilions pas devant le Seigneur pour lui demander pardon, cet opprobre, cette honte ne s'effacera point. Cet homme-là qui fait de telles choses, il est dépourvu de sens. Autrement dit, il est fou. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Vous entendez, vous adultères, qui brisez le lien d'engagement avec votre femme, celle que vous avez mariée du temps de votre jeunesse. Sois fidèle à la femme de ta jeunesse, nous dit encore les proverbes. Frères et sœurs, ne soyez pas des insensés. Ce commandement doit être aussi compris à la lumière de la sexualité humaine. Dans le contexte biblique, le mariage selon les Écritures est un grand don de Dieu. Mais la grande tragédie pour beaucoup de gens est la séparation de la sexualité d'avec la spiritualité. Nous devons comprendre une chose. L'homme, c'est une unité. Vous ne pouvez pas séparer de l'homme le corps de l'âme et de l'esprit. Dès l'instant où le corps est séparé de l'âme et de l'esprit, il y a cessation d'existence. Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort physique, c'est quand le corps est détruit par une maladie, par une blessure, que sais-je, par la vieillesse, et qu'il s'en va et retourne à la poussière. Il n'y a plus unité, donc il n'y a plus vie physique. Le corps, l'âme et l'esprit de l'homme sont une unité parfaite. Tout ce que le corps fait, l'esprit et l'âme y participent. Et c'est ça que nous devons savoir. Ou, si vous voulez, l'invisible de l'homme. L'invisible de l'homme, l'âme et l'esprit, on ne le voit pas, on ne le touche pas. L'âme, c'est la vie. Définissez la vie. J'arrive pas à la définir. C'est quelque chose qui vient d'en haut. L'esprit, c'est cette chose qui est en nous. Cette chose qui ne cesse d'exister. Cette chose qui est éternelle en nous. L'esprit de l'homme, et c'est en ceci, nous sommes supérieurs à l'animal. Nous avons un esprit éternel. L'esprit, l'âme et le corps sont intimement liés l'un à l'autre. Ce que fait le corps influence l'âme et l'esprit. Ce que fait l'esprit en nous influence le corps. Comment se fait-il que lorsque l'Esprit de Dieu descend sur nous d'une façon toute particulière, nous tombons à genoux, nous pleurons, nous sommes là devant Dieu, et nous le louons, et nous le parlons, et lui parlons. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en nous. L'homme profane du dehors qui nous voit, il dit, « Bof, il est fou celui-là, c'est un excité. » Il y en a qui font ça par la chair, bien sûr, pour montrer qu'ils sont spirituels. Mais frères et sœurs, il y en a aussi, lorsque l'Esprit de Dieu descend, eh bien mon ami, je vous assure, ils tombent par terre sur leur face devant Dieu. Ils sont là, ils pleurent et ils parlent à Dieu. Leur esprit et leur âme sont en communion avec Dieu. Mais il y a une réaction dans le corps. Pourquoi? Parce qu'il y a une unité parfaite. La sexualité est un don qui doit être respecté. Frères et sœurs, ce que nous faisons avec notre corps influence notre âme et notre esprit. Je ne peux pas faire et commettre adultère sans que ma vie spirituelle soit affectée. Je ne peux pas violer ce commandement de Dieu sans que ma vie avec Dieu et ma communion avec Dieu ne soit pas affectée. Cela, mon esprit, mon âme sera affectée par les actions de mon corps. Il n'y a pas séparation l'un d'avec l'autre. Le plus grand ennemi de la famille, c'est l'adultère, c'est la polygamie, c'est le concubinage, c'est le divorce. Voilà les ennemis de la famille. adultère, polygamie, concubinage, divorce. Depuis le commencement, dans le livre de la Genèse, le lien du mariage est défini très clairement, en termes sérieux et clairs. C'est pourquoi nous disons non à la polygamie. Écoutez bien, quoi qu'il y ait des hommes qui disent, je l'ai entendu bien déjà plusieurs fois sur nos médias, que la polygamie pouvait se faire, que la polygamie était mal. Donc je suis polygame parce que Dieu n'a pas interdit de le faire et je peux le faire. Père, prions que la lumière reste. Seigneur Jésus, garde cette lumière. Dieu, au verset 24, il est dit. Vous connaissez bien ce verset. Tout le monde le connaît. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà le mariage. Le mariage, ce n'est pas la dot qu'on donne pour acheter la femme. Le mariage, c'est bien plus que le contrat qu'on signe à la zone, à la commune. C'est bien plus que ce contrat civil. Mais je respecte le contrat civil. Le contrat civil est venu à cause de l'infidélité de l'homme. Mais qu'est-ce qu'on faisait autrefois? Les deux familles se aiment la jeune fille aime le jeune homme. Les deux familles se concertent. Oui, je l'avais pour mariage, c'est vrai. Elles se voient ensemble. Ils décident d'une date du mariage. Et on fait une grande fête, 2 jours, 3 jours. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces fêtes qu'on faisait. 2 jours, 3 jours, c'est la fête. On danse, on se réjouit, on mange. Et puis, une cérémonie. Voilà, à partir de maintenant, ils sont mariés. Il va prendre sa jeune femme. Tout le monde sait, ils vivent ensemble, ils ont le droit, c'est fini, c'est terminé. C'était suffisant à cette époque-là. Mais l'homme étant ce qu'il est, il a fallu un contrat écrit. Ah, parce qu'il va toujours dire, « Ah, mais non, c'est pas vrai, mais non, c'est pas moi, c'est un autre, c'est mon frère, un frère jumeau, c'est un sosie. » Alors, le papier... Signature sur le document. Voilà. Dire oui, d'accord, d'accord. Mais je n'ai pas été marié à l'église. Non, mon ami. Tu as couché avec elle, tu es marié. Tu m'entends? Tu as couché avec elle, tu es marié. Ne serait-ce qu'une fois, tu es marié. L'homme quittera son père et sa mère, une seule chair. Il deviendra une seule chair avec sa compagne. Dès l'instant où il est avec une seule chair, ils sont mariés. Il y en a qui me disent, dans l'église, on n'est pas allé devant le prêtre, on n'est pas allé devant le pasteur. Donc, non, 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 non. Aller devant le pasteur, c'est simplement demander la bénédiction de Dieu. Sur une seule chair qui va venir après, pas avant. Pas avant. Après, pas avant. Pourquoi? Parce qu'il est bon de compter avec Dieu. Il est bon de compter avec Dieu, il est nécessaire de compter avec Dieu, il est nécessaire de lui dire « Seigneur, maintenant, je m'en vais vivre avec cette femme à partir de maintenant et je te demande que tu bénisses notre vie ensemble. » Voilà ce que fait un enfant de Dieu. Mais s'il a déjà couché avec avant, il a déjà violé. Oh, s'il n'y avait pas le pardon et la grâce de Dieu. Mais n'abusez pas du pardon de Dieu. Combien d'hommes et de femmes font ce qu'ils veulent après ? Ils disent, « Seigneur Jésus, pardonne-moi. » Amen. Non, ce n'est pas comme ça. Tu fais ce que tu veux, après tu dis, pardonne-moi Seigneur. Il connaît ton cœur, il voit jusqu'au fond tes motivations. Croyez-moi mon frère, moi je ne les vois pas, mais lui les voit. Oui, c'est ce qu'il est écrit au commencement. Mais depuis Genèse 2, 24, il y a eu toute la période de l'Ancien Testament, pas vrai? Où il y a eu polygamie. Vient le temps de Jésus. Dans Matthieu 19, 4 à 6, nous voyons Jésus qui prend la parole et qui dit. Jésus rappelle ce passage de Genèse 2, 24, en y ajoutant. Ah, c'était nécessaire d'y ajouter. C'était nécessaire à cause de tous ces désordres de l'Ancien Testament. Salomon, roi d'Israël, 400 femmes, ou 300, je ne sais plus, plus 400 concubines. Pauvre Salomon. Voilà d'où vient la polygamie. Mais revenons à Jésus. Jésus a pris ce même passage et il a dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Il n'a pas dit « les hommes et les femmes » ou « l'homme et les femmes ». Si par exemple, il faut justifier la polygamie, il aurait dû dire « l'homme et les femmes ». Il fit l'homme et la femme et il dit « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Tout ça, c'est le passage de l'Ancien Testament. Mais Jésus a rajouté à ce passage. Et il a dit, et les deux, c'est Jésus qui dit ça. Il n'a pas dit les trois, il n'a pas dit les quatre, il n'a pas dit les cinq, il n'a pas dit les dix. Il a dit, les deux deviendront une seule chair. Ensuite, il continue, et il tape encore sur le clou. Ainsi, ils ne sont plus deux, c'est Jésus qui dit ça, mais ils sont une seule chair. Ah! Lorsque les pharisiens lui posaient la question, est-il autorisé de répudier sa femme? Et qu'ils ont dit, mais Moïse a dit qu'il fallait donner une lettre de divorce. Mais Jésus est revenu au commencement et il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Non, Dieu n'a jamais approuvé la polygamie. Le foyer polygame ne représente pas la famille idéale. Le foyer polygame ne représente pas le modèle que Dieu a voulu. Depuis toujours, nous savons que dans les foyers polygames, il y a rivalité entre les femmes. Il y a compétition. Il y a dispute entre les femmes d'un polygame. Il y a jalousie. Et entre les enfants de ces différentes femmes, il y a combien de problèmes qui s'élèvent. Et au milieu de tout cela, vous avez le père polygame qui règne comme un despote. Il a des préférences pour l'une et néglige l'autre. Il favorise les enfants de l'une et néglige les enfants de l'autre. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas d'exemple pour les enfants. Vous entendez, polygame? Et vous qui écoutez à la télé? Il n'y a que tristesse. Il n'y a que oppression, il n'y a que humiliation. Les femmes s'humilient à faire des choses incroyables pour essayer d'avoir les faveurs du grand chef de tribu. Elles lui s'amusent là au milieu. Ils s'amusent, et même ils s'amusent à les diviser pour pouvoir mieux régner. La Bible ne nous dit pas que le polygame, parce que polygame ira en enfer. La Bible ne dit pas ça. Mais un tel homme qui se convertit à Jésus-Christ est appelé à mettre sa vie en ordre. Car il ne représente pas la famille qui glorifie le Seigneur. Et il est en grand danger pour lui-même et pour sa famille, même de perdre ce que Dieu veut lui donner. Vous, femmes chrétiennes, qui êtes sous ce joug, cherchez à sortir de ces chaînes. Personne ne vous oblige à rester esclave. Femmes qui avaient un mari infidèle, je l'ai déjà dit, je le répète, car c'est quelque chose que quelques-uns n'ont pas compris. Femmes chrétiennes, qui avaient un mari infidèle, c'est-à-dire adultère, qui courent après d'autres femmes, qui rentrent rarement à la maison, ou une fois par semaine, et qui commencent à vous taper, à vous insulter. Vous n'êtes pas obligés de rester sous ce joug humiliant. Vous n'êtes pas obligés de rester sur ce joug et risquer, à cause de cela, d'attraper des maladies sexuellement transmissibles, dont le sida. Votre mari est infidèle. Votre mari court partout. Votre mari, quand il revient à la maison, il va encore coucher avec vous. Parlons des choses telles qu'elles sont. Vous avez le droit de lui dire non. Et si vous le faites, il vous fait du mal, alors ayez une bonne explication avec lui, avec votre mari infidèle. Et dites-lui la raison pour laquelle vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas attraper ces maladies que probablement il transporte à la maison. De toute façon, vous savez que l'adultère est une raison que reconnaît la parole de Dieu pour la séparation. Alors, vous lui dites, je sors de la maison. Je m'en vais soit chez ma famille, soit quelque part où je peux aller. Vous ne demandez pas le divorce, mais vous lui dites, j'attends que tu changes de vie. J'attends que tu viennes à Jésus-Christ. J'attends de voir le changement chez toi. Jusqu'à ce qu'il soit véritablement changé et transformé. Je me souviens une fois d'une femme que j'ai bien connue. Elle était mariée avec un homme qui avait passablement d'autorité, il y a bien des années de cela. Il avait beaucoup de femmes, plus des concubines. Un beau jour, elle est arrivée à dire, « Je ne veux plus vivre avec toi, parce que tu vas m'infecter avec toutes ces sales choses. » Cet homme est venu me voir à la maison. Et il m'a dit, « Pasteur Verneau, vous devez m'aider. » Je dis, « Je suis prêt à vous aider. » Il m'a dit, « Voilà, ma femme veut me quitter. » Ah, je connaissais l'histoire. Je lui ai dit, « Si elle vous quitte, simplement parce qu'elle veut se joindre avec un autre homme, là, je ne suis pas d'accord. Mais s'il vous quitte pour raison de conscience, je n'ai rien à dire, c'est son droit. » Il était fâché. Il est sorti. Il a dit, « Je vais casser ce pasteur. » Je vais casser cette église. C'est une autorité dont je tais le nom ici, du passé. Sa femme lui a dit, attention, tu touches à cet homme, tu touches à Dieu. Vous n'avez pas besoin de subir le joug de l'impureté. L'Ancien Testament compare Israël à l'épouse de Dieu, du Dieu de l'Alliance, et s'adressant à la maison d'Israël, il dit, car celui dans Ésaïe 54, 5, celui qui t'a fait est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, il est ton Rédempteur et le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée dont l'esprit est affligé. La compagne de jeunesse peut-elle être répudiée, dit l'Éternel. L'Éternel dit, tu es ma compagne de jeunesse. Tu es allée dans la saleté et dans l'impureté. Mais je ne peux répudier ma compagne de jeunesse. Si Dieu parle comme ça, comment toi peux-tu parler? Dans le Nouveau Testament encore, le Nouveau Testament compare l'Église à l'épouse de Christ. Dans Apocalypse 19, 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Avez-vous vu des noces avec plusieurs femmes et un homme? Dites-moi un peu. Cette première femme que tu as mariée, c'était la femme légale. C'était la femme de ta jeunesse. C'était la femme de ton amour. C'était la femme de ta force. Toutes les autres, c'est la corruption. Ce n'est pas que ces femmes soient forcément corrompues, c'est toi qui es corrompu. Christ n'a qu'une seule épouse, qui est son Église fidèle, composée des rachetés qui ont été dans le sang et dont la vie est nouvelle par le sacrifice du Sauveur à la croix. Une seule à Christ. Et il y a la comparaison dans la Bible, juste dans le Nouveau Testament, de l'épouse de Christ et de l'épouse et l'époux dans l'Église. Apocalypse 27, 9. Puis un des sept anges me parla disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et dans 2 Corinthiens, « La femme de l'agneau. » Vous m'entendez? Là, il n'y a qu'une seule église. Il n'y en a pas 20. Il n'y a qu'une seule église. Et cette église, elle ne porte pas le nom d'Assemblée de Dieu. Elle ne porte pas le nom de Pentecôte. Et elle ne porte pas le nom d'homme d'affaires du plein évangile. Cette église ou le nom de protestants ou de catholiques ou que sais-je encore, cette église-là. Non! Ce sont tous ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau, d'où qu'ils viennent, qui ont cru dans le sacrifice de Golgotha et qui sont des enfants de Dieu nés de nouveau. 2 Corinthiens 11, 2. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure, pas des vierges pures. Dans toute la Bible, Dieu a comparé les relations, la joie, le bonheur, la paix, l'harmonie d'un couple qui s'aime aux relations de Dieu avec ses enfants. N'est-ce pas merveilleux? Tout ce que Dieu a fait dans les relations d'un couple qui s'aime est bon, est juste, est honorable, est voulu de Dieu. Ce que la polygamie ne représente pas, c'est un foyer d'animosité, de concurrence de toutes sortes et de malheur. Parents, ne donnez pas vos filles à un polygame, vous m'entendez? Même s'il vous couvre d'or, s'il vous donne des diamants, s'il vous donne des honneurs, votre fille a plus de valeur que tout l'or et que tous les honneurs que le monde peut donner. Vous, filles, n'acceptez pas d'entrer dans un foyer polygame. Car vous êtes aussi responsable. Même si on vous promet tous les avantages, de payer toutes les études, des bijoux, des parures, des vêtements de tout genre, avec des serviteurs et des belles voitures et des belles maisons, non! Vous valez plus que tout cela. Si vous choisissez cette route de la polygamie, jeune fille, vous allez pleurer avec des beaux vêtements et des beaux bijoux. Mais vous serez triste et malheureuse. Notre foi exige des relations entre un homme et une femme engagées l'un avec l'autre, que ces relations soient des relations de confiance, de pureté, de fidélité, sans compromis. Sans compromis pour des avantages. C'est pour cela que nous devons combattre. Mon temps est passé, il faut que je m'arrête. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre ces choses. Tu ne commettras pas d'adultère. Et tout ce que je vous dis là rentre dans ce domaine. Pas de polygamie. Tu es polygame, femme de polygame. Règle ton problème. Dieu t'aidera. Dieu t'aidera. Mais souviens-toi que tu es responsable de tous les enfants que tu as mis au monde. Ils n'ont jamais demandé de venir au monde, ces enfants. C'est toi qui les as voulus. Baissons la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est devant toi que nous nous tenons. Ta parole nous instruit. Ta parole nous enseigne. Ta parole nous corrige. Seigneur, donne-nous de comprendre ces corrections. Donne-nous de savoir nous humilier et d'avoir un cœur droit pour reconnaître la vérité. Tu as bien dit, la vérité vous affranchira. Seigneur, si nous sommes encore esclaves, c'est parce que nous n'avons pas laissé cette vérité pénétrer dans nos cœurs. Seigneur mon Dieu, libère-nous de cet esclavage de la chair. Libère-nous, Seigneur. Donne-nous de travailler au bien de notre prochain, au bien de notre femme et de nos enfants. Seigneur mon Dieu, veuille nous pardonner ces choses que nous avons faites dans le passé et ces choses que nous traînons derrière nous comme un boulet qui nous empêche d'avancer. Mon Dieu, aide-nous à comprendre et à conformer notre vie avec celle que tu as fait à vivre en toi. Peut-être que Dieu vous a parlé ce matin, frères et sœurs, d'une façon ou d'une autre. Je ne veux pas spécifier quelques domaines particuliers, parce que je ne veux pas vous exposer devant tous. Mais peut-être que Dieu vous a parlé dans un domaine ou dans un autre ce matin, et que vous comprenez que vous avez mal fait, et vous voulez demander pardon à Dieu. Alors levez-vous là où vous êtes, et nous prierons avec vous. Levez-vous là où vous êtes, et nous prierons avec vous. Ne résistez pas à la voix de Dieu. Peut-être que ce petit geste de se lever ne représente pas grand-chose et pourtant ceci représente devant Dieu un engagement, une reconnaissance, une humiliation, une décision aussi de changer. Vous voulez changer? Levez-vous. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui se lèvent maintenant. Tu les vois dans cette place, Seigneur. Ils se lèvent. Et tu connais le secret de leur cœur. Ils se lèvent et tu sais pourquoi ils se lèvent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, de leur pardonner leurs péchés. De leur pardonner, Seigneur, la légèreté avec laquelle ils se sont comportés, soit vis-à-vis de celle qui est leur compagne ou leur compagnon, ou peut-être vis-à-vis de leur comportement personnel devant les autres. Seigneur, tu connais le cœur de ces jeunes filles qui cherchent par tous les moyens à attirer les garçons et qui, à cause de cela, deviennent impures. Tu sais, Seigneur, ces garçons qui jouent de façon honteuse, Seigneur, et qui pensent que tout est bien puisqu'ils ne sont pas mariés. Seigneur, fais-leur comprendre ces choses-là. Oh mon Dieu, et qu'ils se repentent. Et qu'ils te livrent leur vie, et qu'ils soient de nouvelles créatures, lavées et purifiées par le sang de Christ. Ton sang, ô Jésus, c'est ce dont nous avons besoin. Ce sang qui purifie et qui nous lave. Père céleste, nous sommes là devant toi, Seigneur, et nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur. Pardon pour ces égarements dans notre vie. Tu viens bientôt. Tu es à la porte, Seigneur. Et nous voyons dans le monde tant de choses qui se passent, qui annoncent ton retour. Nous voulons nous préparer. Nous voulons être purs devant toi, Seigneur. Purs et lavés dans ton sang. Nous sommes là devant toi, humiliés. Merci, Seigneur. Reprenons nos places. Nous voulons t'apporter nos offrandes et nos dîmes maintenant. Sanctifie ces offrandes. Sanctifie ces dîmes. Seigneur mon Dieu, tout ce que nous mettons dans ces paniers, ce n'est pas de l'argent superflu. Tu sais, Seigneur, que cela représente même ce dont nous avons besoin. Mais Père, c'est toi qui pourvois nos besoins. Seigneur, bénis ces offrandes et pourvois à tous ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui. Au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.